Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Midi 30, ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
Ce retard est totalement inexcusable. Il faut trouver tous les moyens de s'adapter pour qu'on soit le moins pénalisé possible.
Le laboratoire Pfizer-BioNTech annonce des retards dans la livraison de son vaccin dans toute l'Europe. La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, assure que tout sera rentré dans l'ordre dans 10 jours. Nous verrons quel impact cela pourrait avoir sur la vaccination, notamment des plus de 75 ans. Tout le monde à la maison à 18h ce soir. Nous serons dans un centre commercial des Hauts-de-Seine où les clients et commerçants s'adaptent. Nous verrons aussi avec Jacques Cressel, délégué général de la Fédération des entreprises et du commerce de la distribution, comment les grandes surfaces vont s'organiser pour accueillir les clients avant 18h. La détresse des étudiants est encore un effort, écrit Emmanuel Macron à l'étudiante de Strasbourg qui l'a interpellée sur Facebook avec des mots très forts. À 19 ans, j'ai l'impression d'être morte et de ne plus avoir de rêve. Invité du journal de la mi-journée, Manuel Thunon-Lara, le président de la conférence des présidents des universités qui a rencontré Jean Castex hier. Nous irons en Allemagne avec l'élection à la tête de la CDU de celui qui pourrait succéder à Angela Merkel. La météo et la neige qui tombent, notamment sur Paris. 32 départements en vigilance, neige et verglas. Nous verrons si ça va durer avec Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Témoignage rare, celui d'un ancien membre du GIGN qui a participé à l'assaut contre l'imprimerie de Dammartin en Gouëlle où étaient retranchés les frères Kouachi en janvier 2015.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Va-t-on avoir assez de vaccins dans les semaines qui viennent alors que, vous le savez, débute lundi la vaccination des plus de 75 ans et qu'ils sont déjà 500 000 à avoir pris leurs deux rendez-vous pour leurs deux injections du vaccin Pfizer-BioNTech, chiffre communiqué hier soir par le ministère de la Santé. La question se pose en effet, Théo Manval, parce que le laboratoire Pfizer-BioNTech a annoncé hier soir un retard dans les livraisons pour tous les pays européens. De quelle ampleur d'ailleurs, Théo ?
Eh bien, une semaine seulement. C'est en tout cas ce que veut croire ce matin la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, sur la foi d'un nouveau communiqué publié par Pfizer qui assure que la réduction du nombre de doses livrées à l'UE sera limitée à la semaine prochaine et que les livraisons doivent reprendre le rythme prévu à partir du 25 janvier. Ce retard, Pfizer l'explique, vous le savez, par les travaux nécessaires dans sa seule usine à fabriquer le vaccin aujourd'hui en Europe, celle de Pürs en Belgique. Travaux qui doivent permettre d'augmenter de près de moitié la production annuelle à partir de la mi-février. Une semaine de retard donc, dit ce matin le laboratoire, alors que le gouvernement allemand redoutait, lui, hier 3 à 4 semaines de perturbations.
Alors concrètement, quelles conséquences ça va avoir et éventuellement sur notre stratégie vaccinale ?
Eh bien, alors que le déploiement tel qu'il est prévu aujourd'hui n'est pas remis en cause, mais il se fera moins vite. On va avoir une forte baisse des livraisons dans les jours qui viennent, reconnaît une autre source au sein de l'exécutif. On a déjà reçu en France 1,5 million de doses. On en attendait 500 000 de plus la semaine prochaine. Mais c'est vrai que cette ampleur inconnue du ralentissement au moment même où on redoute la prolifération du variant anglais, elle inquiète les médecins à l'image du professeur Djillali Annane, chef du service réanimation à l'hôpital de Garches.
Il faut bien évidemment avoir un plan B. Moi, je pense que la France pourrait s'inspirer de ce que fait l'Allemagne, autrement dit, de négocier directement avec Moderna, indépendamment des négociations qui ont eu lieu au niveau européen, pour obtenir des livraisons supplémentaires du vaccin de Moderna. Et puis, au niveau européen, il faut accélérer le plus possible l'acquisition du vaccin d'AstraZeneca et sa mise sur le marché, son utilisation en France.
Sur Europe 1 ce matin, l'économiste de la santé Frédéric Bizard évoquait d'autres solutions, comme l'accord de licence par Pfizer pour permettre à d'autres usines que les siennes de produire son vaccin, mais ça prendrait du temps. En tout cas, chez nos voisins, ce retard a déjà des conséquences visibles. Le premier hôpital belge qui devait vacciner ses soignants aujourd'hui a dû repousser l'opération.
Théo Malval, c'est donc ce soir que tout le monde devra rester à la maison à partir de 18h. Couvre-feu avancé avec les commerces fermés, à l'exception notamment des pharmacies qui peuvent rester ouvertes. Yasmina Katou, vous êtes dans un centre commercial à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Comment les clients et les commerçants s'organisent avec ces nouvelles restrictions ?
Eh bien, concernant les clients, ils s'adaptent. Une toute nouvelle routine à mettre en place pour Françoise. Le couvre-feu dès 18h bouscule ses habitudes.
Je me suis levée plus tôt au lieu de profiter de mon sommeil le matin pour éviter la foule. Je travaille de 8h du matin à 18h. Je finis toujours à 18h.
Là, maintenant, vous allez vous organiser comment ? Vous avez prévu des menus pour la semaine ? Comment ça va se passer ?
Je vais faire mes courses, je fais la liste. J'espère que j'ai rien oublié.
Et hors des allées du supermarché, très peu de monde en cette fin de matinée. Marie tient une boutique de prêt-à-porter. Elle accueille les clients à partir de 10h et ne compte pas changer ses horaires.
si j'étais arrivée à 8h ce matin, ça ne changerait rien. On a des clients qui nous appellent, est-ce que tu peux m'attendre, je vais passer, voilà. Les tranches horaires, ça ne correspond pas avec le temps libre de nos clients en fait. 75%, pour ne pas exagérer, de notre chiffre d'affaires, il se fait entre 17h et 20h30. Voilà, du coup c'est super compliqué.
Seul espoir pour Marie que d'ici quelques jours, les clients s'habituent au couvre-feu à 18h et se déplacent entre midi et 2.
Yasmina Katou à Gennevilliers pour Europe 1. Bonjour Jacques Ressel.
Bonjour.
Délégué général de la Fédération des entreprises et du commerce de la distribution qui regroupe 750 000 salariés. On voit le poids effectivement. Quel est l'impact concrètement pour les grandes surfaces, ce couvre-feu avancé à 18h, sachant que c'est parfois pour certains commerces jusqu'à 30% du chiffre d'affaires qui est fait après 18h?
Oui, c'est effectivement en moyenne 30% du chiffre d'affaires qui est fait le soir. Il faut bien voir que les clients doivent être rentrés chez eux à 18h. Donc, ça veut dire qu'à partir de 17h, 17h15, il n'y a plus grand monde dans les magasins. Vous n'avez plus la possibilité d'y aller, d'autant plus qu'il faut en semaine récupérer les enfants, sortir du travail avant. Et naturellement que c'est très compliqué. Donc, il y a un report qui se fait. C'est pour ça que nous nous sommes organisés globalement. D'abord, en ouvrant les magasins plus tôt le matin. La plupart des hypermarchés ouvrent maintenant à 7h30 du matin, les supermarchés à 8h du matin. Et puis en renforçant les lignes de caisse de façon à ce que le parcours client soit le plus simple possible à des moments de forte affluence. Nous essayons de nous organiser et les clients eux-mêmes sont en train de le faire. Ils vont sans doute, comme c'est le cas depuis mars dernier, venir moins souvent en magasin et acheter plus. Là aussi, on s'organise de façon à ce qu'il y ait des stocks suffisants.
Donc, pour acheter en ligne,
on essaie
avec
de
des
faire
drives.
En sorte qu'au maximum, voilà, les drives, la livraison, là aussi, on a renforcé. Et c'est pour ça qu'on a demandé aussi à pouvoir ouvrir plus facilement le dimanche, de façon à pouvoir étaler les flux. Ça nous paraît indispensable d'abord pour compenser un peu la perte éventuelle de chiffre d'affaires et puis deuxièmement du point de vue sanitaire pour éviter qu'il y ait trop de monde le samedi. Pour le moment, on a encore quelques complications avec le gouvernement qui reste des règles très compliquées.
Alors justement, Jacques Ressel, vous étiez en discussion avec Bruno Le Maire hier en visio avec le ministre de l'économie. Ouvrir le dimanche, vous allez pouvoir le faire systématiquement ?
Écoutez, Bruno Le Maire comme Jean Castex sont en phase là-dessus et sont d'accord. Malheureusement, le ministère du Travail est un peu en arrière de la main, reste sur des procédures. Vous savez qu'il faut normalement 5 semaines de consultation avant de pouvoir ouvrir un magasin et que la demande se fait magasin par magasin au niveau de chaque préfet. Vous imaginez la complexité de tout ça. Donc nous, on demande une simplification, c'est-à-dire faire en sorte que tant qu'il y a des mesures de restriction d'ouverture des magasins, on puisse ouvrir automatiquement tous les magasins. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fera. Ça ne veut pas dire que ça sera fait tout le dimanche, parfois jusqu'à 14 ou 15 heures, par exemple pour l'alimentaire. Mais ça nous paraît indispensable. Et puis très franchement, on a d'autres sujets plus importants à gérer dans un magasin que de passer son temps à faire des formalités de ce type-là.
Merci beaucoup Jacques Ressel d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, délégué général de la Fédération des entreprises et du commerce de la distribution. Merci à vous. Alors parmi ceux qui subissent aussi de plein fouet ces restrictions, il y a les étudiants. La reprise des cours en amphi n'est toujours pas à l'ordre du jour. Seule perspective pour les élèves de première année, la reprise des travaux dirigés en demi-groupe dans 10 jours. Et témoignage du mal-être qui monte chez les étudiants. Cette lettre ouverte d'une étudiante à Sciences Po Strasbourg, Heidi Soupeau. À 19 ans, j'ai l'impression d'être morte. J'ai 19 ans et mon bureau, c'est ma chambre. Voilà ce qu'elle a écrit Emmanuel Macron, qui lui a répondu qu'il fallait encore tenir quelques semaines, encore un effort, mais qui comprend sa colère. Alors comment Heidi a accueilli la réponse du président? Elle s'est confiée à Jean-Jacques Héry.
La première réaction que j'ai eue, c'est de la déception, parce que bon voilà, je suis un peu naïve et je me suis dit peut-être que il y a quelque chose qui va changer, etc. Et puis voilà, il nous demande de tenir encore. Enfin, il dit en toute franchise, il va falloir tenir. Et ok, en fait, enfin, j'ai fait tout ça un peu pour rien, mais voilà, après j'ai relativisé parce que c'était mon sentiment premier et je me suis dit mais non, Heidi, t'as pas fait ça pour rien, maintenant vous êtes entendu. Avant, enfin vraiment, j'avais l'impression que personne comprenait notre manque, parce que comme on est dans une période de notre vie, les étudiants, les lycéens, enfin les jeunes en général, où on vit très fort, les interactions sociales c'est vraiment le centre de notre vie, et les enlever c'est vraiment un coup très dur, il y a un sentiment de non-sens.
Et la reprise des TD en demi-groupe pour les premières années, c'est une bonne chose selon vous?
C'est super pour les premières années, mais voilà, il y a quand même toute une partie des étudiants qui bon, voilà, ça change juste rien et on continue à s'enfoncer dans un sorte de marasme psychique. S'il y a un autre confinement, ça va être très très dur pour beaucoup d'étudiants.
Voilà, on continue à s'enfoncer dans ce marasme psychique, dit Heidi, au micro de Jean-Jacques Herry. On posera la question justement de ce mal-être étudiant. Quelle solution y apporter ? Est-ce que c'est tenable encore longtemps ? Je pose la question au président de la conférence des présidents d'université, Manuel Thunon-Lara, qui est mon invité dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe Midi, Fabienne Lemoine.
Et dans un instant, direction l'Allemagne avec peut-être le nom de celui qui succédera Angela Merkel.
Europe Midi. Fabienne Lemoine.
Et direction l'Allemagne avec peut-être le nom de celui qui succédera Angela Merkel. On retrouve à Berlin Hélène Kohl alors que se déroulait ce matin, Hélène, l'élection du président de la CDU qui est traditionnellement le candidat naturel pour la chancellerie puisque c'est le plus grand parti allemand. Et donc ça y est Hélène, on connaît le nom.
Oui, le nom qu'il faut retenir maintenant, Fabienne, c'est celui-ci, Armin Laschet. C'est un poids lourd de la politique allemande, puisqu'il dirige depuis 4 ans le land le plus peuplé du pays, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et ce matin, il vient de se glisser automatiquement dans le costume de favori pour être le prochain chancelier. La CDU aborde cette année électorale avec quasiment 20 points d'avance dans les sondages. Et si cela se maintient, elle décrochera la chancellerie en septembre avec donc un nouveau chef complètement dans la lignée d'Angela Merkel. Armin Laschet, 60 ans le mois prochain, un fidèle, un homme du centre, tout en rondeur, qui a choisi d'être candidat au poste de président de la CDU avec un colistier. C'est le seul à l'avoir fait et c'est vrai que cela a renforcé son profil de joueur collectif à l'écoute, et son discours ce matin était un modèle du genre « Vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance, je suis l'homme de la continuité », avec aussi des petits accents personnels qui ont fait mouche. On a un petit peu oublié ici, après toutes ces années Merkel, qu'on peut aussi faire de la politique avec de l'émotion. Il est catholique, originaire d'Aix-la-Chapelle. Une partie de sa famille vient de Belgique, mariée à une francophone, et d'après son frère qui a fait l'arbre généalogique des Laschet, il serait le descendant au 40e degré de Charlemagne.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
L'actualité sportive, et c'est le mondial handball en Égypte avec le deuxième match des Bleus qui espèrent renouveler leur exploit du premier match face à l'Autriche après leur victoire face à la Norvège. Mais attention, dit Ludo Fabregas, attention à ce match piège.
On se doit maintenant de garder de la lucidité sur la situation, beaucoup d'humilité également. Certes, on gagne la Norvège, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours, on s'inclinait face à la Serbie, on faisait match nul également à domicile. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément de garantie, on va dire, sur notre niveau actuel. On a été incapable de faire un très bon match, et c'est très bien. Il faut se servir de ça pour pouvoir avancer et engranger de la confiance. Mais on se doit aussi de continuer à travailler pour justement jouer mieux et être encore plus efficace, notamment sur le jeu offensif.
Et puis, nouvelle du Vendée Globe avec l'abandon de Sébastien Destremo. Sébastien Destremo, c'est celui qui avait été la lanterne rouge du dernier Vendée Globe. Il était toujours lanterne rouge, mais malheureusement, il a dû cette fois abandonner. Et puis, l'entraîneur du PSG à l'isolement, l'Argentin Mauricio Pochettino, positif au Covid-19. Ce sont ses adjoints qui dirigeront l'équipe face à Angers. Ce sont donc 32 départements qui sont en alerte orange, neige et verglas. De nos fenêtres d'ailleurs, rue des Cévennes, nous voyons depuis ce matin des flocons qui tombent sur Paris. Ça ne tient pas beaucoup. Beaucoup plus de neige dans l'Est, notamment en Moselle. Écoutez le sous-préfet de Sarreguemines, Christophe Salin.
La situation en Moselle est blanche de 5 à 12 cm dans la mesure où la neige ne fond pas puisque nous sommes en gel et la météo prévoit des températures négatives pour toute la journée de ce samedi, et même un regel fort en soirée, avec un risque de neige en fin de journée. Ce sont des conditions qu'on n'a pas connues depuis 4 à 5 ans, de température aussi négative, moins 7, moins 8, et en ce moment, moins 5, moins 6. Néanmoins, la situation est satisfaisante dans la mesure où on a pu comptabiliser un seul accident sans blessé grave. La situation 1 de couvre-feu sanitaire, de météo très dégradée fait que les gens restent largement au chaud à leur domicile.
Le sous-préfet de Sarreguemines, Christophe Salin, avec Jean-Jacques Herry. Notez qu'en Alsace, toujours 5000 foyers privés d'électricité, mais retour à la normale prévu ce soir. Alors, on va voir maintenant comment les conditions météo vont évoluer. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Alors, est-ce que ça va continuer à neiger, être perturbé aujourd'hui ?
Ah bah oui, ça continue jusqu'à ce soir, mais par contre, ce n'est pas partout pareil. La neige ne tombe pas avec la même intensité et pas au même moment. Alors évidemment, elle tombe déjà sur tous les départements entre le nord de la France et le centre du pays, Limousin, Corrèze, en passant par toute la Bourgogne, depuis les Ardennes. Ce sont ces 32 départements qui sont en vigilance orange, donc neige et verglas. J'insiste sur le verglas, on vient de l'entendre. Et cet après-midi, cette perturbation qui en ce moment sur le bassin parisien et le nord de la France va continuer sa progression en direction des Ardennes, de la Champagne vers l'est du bassin parisien, puis elle va se diriger vers le sud en touchant la Bourgogne et la région centre. Et c'est principalement sur ces régions que les chutes de neige pourraient être les plus conséquentes et rendre les conditions de circulation difficiles sur le bassin parisien et les Hauts-de-France. La pluie remplacera la neige progressivement. Et puis ce soir, cette perturbation commencera à perdre progressivement de son activité en se dirigeant vers l'Alsace, la Franche-Comté, le Massif central, la région Rhône-Alpes. C'est le département de la Corrèze qui sera le plus exposé à son tour, en particulier aux altitudes supérieures à 400 mètres. Et la nuit prochaine, ces chutes de neige continuent, modérées quand même, se décaleront de nouveau, on l'entendait aussi avec le préfet, vers l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, et elles faibliront sur la Lorraine et le Massif central. Et demain, il en sera fini de la neige partout sur les deux tiers ouest du pays. Elle continuera de tomber sur la partie est de la France.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoine.
À suivre, on va revenir sur le mal-être des étudiants. Un tiers présente des signes de dépression avec ses cours qui ne reprennent pas dans les amphis. Le président Macron leur écrit qu'il faut encore tenir quelques semaines pour suivre l'effort. On verra si c'est tenable. On pose la question dans un instant à mon invité, Manuel Thunon-Delara, le président de la Conférence des présidents des universités. Il a rencontré hier Jean Castex.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoile.
12h50 sur Europe 1, encore un effort, voilà ce que répond Emmanuel Macron à Heidi Soupeau, étudiante à l'IEP de Strasbourg, qui lui a écrit qu'à 19 ans, elle a l'impression d'être morte, qu'elle n'a plus de rêve. Bonjour Manuel Thunon-Delara.
Bonjour.
Président de la Conférence des présidents des universités, président de l'Université de Bordeaux, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Encore un effort de quelques semaines, donc, dit le président de la République. Ça vous paraît tenable, vous qui au quotidien voyez ces étudiants privés de cours d'amphi avec la seule perspective pour l'instant d'une reprise de cours pour les premières années en demi-groupe et seulement pour les travaux dirigés et dans 10 jours?
Écoutez, non, je crois pas que la situation soit longtemps tenable, parce que il faut se rendre compte qu'on dit encore un effort à ces étudiants depuis près d'un an. Et peut-être qu'on n'a pas pris toute la mesure de la détresse, de ce que cela impliquait pour des étudiants, dont la vie à l'université, le contact, ils travaillent en groupe, ils ont des échanges avec les professeurs, les premières années qui n'avaient jamais rencontré l'enseignement supérieur découvrent l'université, les TP, les TD, la bibliothèque. Et aujourd'hui, la question, c'est il faut sauver le second semestre. Et pour sauver le second semestre, il faut qu'il y ait une reprise. Alors, on est très content qu'on puisse commencer à le faire avec les premières années, mais il faut l'étendre aux autres années. La détresse, elle n'a pas uniquement le périmètre de la première année de licence.
Justement, Manuel Thunon-Delara, cette détresse, vous la voyez comment au quotidien? Je reviens à cette lettre de Heidi Soupeau qui, quelque part, nous interpelle tous, qui est aussi le témoignage de ce mal-être étudiant que vous voyez au quotidien, qui dit « Parfois, je pleure devant mon ordinateur, mon bureau, c'est ma chambre ». On en est où de cette détresse? Je crois que vous parliez d'un tiers des étudiants qui ont des signes de dépression.
Oui, c'est un tiers, c'est beaucoup. 2,5 millions d'étudiants, enfin, ça fait à peu près 800 000 étudiants qui, en théorie, ont donc des indicateurs d'anxiété, de dépression, des idées noires. Alors nous, on le voit, les enseignants, le personnel des universités s'est vraiment mobilisé, de façon tout à fait admirable depuis près d'un an. Mais eux aussi s'essoufflent parce qu'ils voient ces étudiants qui leur échappent. C'est sûr que le lien pédagogique est le plus fort, mais vous voyez les écrans qui s'éteignent, on va voir, regarder la fréquentation aux examens, on appréhende le résultat des examens, et donc ça, ce sont des stigmates objectifs d'une forme de découragement. Tous les étudiants ne sont pas sur un même pied d'égalité, c'est certain qu'il y a des étudiants qui sont plus autonomes, qui sont en master, qui se sont organisés, qui ont des conditions aussi familiale, financière, individuelle, de travail qui peuvent leur faciliter la tâche.
Justement, mais aujourd'hui, Manuel Thunon de Lara, vous avez rencontré hier Jean Castex et Frédéric Vidal. Parmi les pistes qui ont été lancées pour répondre à ce mal-être, il y a ce chèque santé mentale, il y a le doublement des psychologues. Est-ce que vraiment c'est une réponse suffisante ?
Je pense que ces réponses sont nécessaires, mais ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, on a des réponses qu'on travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur l'accompagnement, sur les petits groupes à 10 étudiants, sur les psychologues, les assistantes sociales. Mais la vraie réponse, c'est la reprise des cours.
Alors comment on fait cette reprise des cours ? Puisque pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'on peut aller vers une année blanche, puisqu'on attend de voir comment évolue l'épidémie et que malheureusement, Jean Castex disait encore cette semaine, l'hypothèse d'un reconfinement n'est pas du tout exclue.
Oui, alors nous avons rencontré le Premier ministre avec les organisations étudiantes. Et nous, la proposition, toutes les universités sont extrêmement conscientes de la situation sanitaire, extrêmement responsables vis-à-vis des mesures qu'il faut prendre. Nous, ce que nous proposons, c'est que au-delà de la jauge de 50% et de TD pour les premières années, peu à peu, ceci soit fait sur l'ensemble des étudiants, quitte à ce qu'il y ait des jauges d'établissement. On ne voit pas très bien pourquoi on pourrait avoir sur une même classe d'âge des mesures qui sont prises pour les lycéens ou les BTS, les classes préparatoires, que des mesures sont également prises pour les jeunes qui travaillent une fois par semaine au moins de présence et que ces mesures ne soient pas appliquées aux étudiants. On est tout à fait capable dans les universités d'organiser ça.
Que vous répond Jean Castex, puisque j'imagine que ces propositions, vous lui avez mis sur la table hier.
Nous les avons mises sur la table hier. Je pense qu'il il ne les a pas accueillis de manière défavorable, mais nous n'avons pas eu de réponse. Et effectivement, à la fois les organisations étudiantes qui s'expriment et les responsables des universités, des personnels, des enseignants-chercheurs sont en attente d'un dispositif qui soit autorisé par le Premier ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'on organise ce retour progressif parce qu'il faut sauver l'année universitaire. On ne veut pas galvauder nos diplômes et on veut accompagner tous ces étudiants qui, il faut l'admettre, sont en souffrance, mais l'empathie ne suffit plus aujourd'hui.
Est-ce que c'est rattrapable ? Est-ce que vous mesurez déjà le nombre de premières années, puisque c'est eux qui arrivent à la fac ? Et vous le dites, il y a une différence entre ceux qui sont peut-être en BTS, qui sont dans les lycées, qui ont cours justement dans des classes, et puis les premières années qui sont derrière leur écran. Combien ont déjà décroché ?
C'est difficile de répondre parce que les examens sont en train de se terminer et puis il faut regarder effectivement quel est le niveau de réussite aux examens. Moi, je pense que c'est rattrapable à la condition de ne pas trop tarder, quitte à prolonger sur l'année, quitte à s'adapter. Aujourd'hui, on a une certaine flexibilité sur 2-3 ans, que ça soit en licence ou ensuite sur master. Il faut faire très attention à ceux à qui on va délivrer un diplôme. Et en plus, nous avons des jeunes qui sont remarquables, qui rebondissent, qui s'adaptent, qui se sont adaptés à des nouvelles modalités pédagogiques. Donc moi, j'ai pleinement confiance dans cette jeunesse. Mais il faut les aider assez vite. Et je pense que, on parlait du mois de février, au-delà de février, on peut être dans une situation de non-retour pour certains et effectivement une année qui soit sacrifiée. Et ça, c'est la crainte des présidents d'université, de l'ensemble de l'enseignement supérieur en France.
Une dernière question et qui amènera, j'espère, une réponse rapide de votre part, car le temps nous est compté, Manuel Thunon de Lara. Il y a cette situation psychologique, psychique, difficile pour les étudiants. Une situation financière difficile, le couvre-feu arrive, beaucoup ont des petits boulots, ils vont les perdre aussi avec le couvre-feu à 18h.
Oui, c'est pas simplement le couvre-feu, c'est tous les emplois, restauration, babysitting, etc. Donc il y a une partie de réponse avec des emplois étudiants, mais oui, c'est une difficulté et non, on n'a pas toutes les réponses pour subvenir à ces situations de précarité où il y a beaucoup d'entraide, mais cela ne suffit pas.
Merci beaucoup Manuel Thunon de Lara, président de la conférence des présidents des universités, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. On voit l'urgence et qu'il faut que cette prise de conscience soit plus importante que juste des efforts demandés aux étudiants, on l'a bien compris. Merci à vous, à 13h on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain. On reviendra sur la vaccination des plus de 75 ans.